J'aimerais profiter de l'inflation du dimanche matin. Je pense que vous me comprenez pour saluer les uns et les autres, ceux avec lesquels je n'ai pas fait route durant les soirs précédents, me réjouir d'être avec vous, d'avoir vécu ce nouveau rendez-vous que j'apprécie beaucoup. Je dois d'ailleurs préciser d'emblée que je serai de nouveau à Altenkendorf très bientôt. Ça vous surprend, hein? Je vois mes hôtes qui froncent le sourcil. Oui, tout simplement parce que je serai reçu dans un foyer missionnaire qui est issu de, qui a en tout cas vécu dans le cadre de cette église, à Dakar, au Sénégal, dans le cadre d'une série d'études. Je viens d'apprendre par courrier que je serai donc reçu dans un foyer missionnaire d'Altenkendorf. Donc je ne savais pas que Altenkendorf se trouvait aussi au Sénégal, mais on apprend tous les jours dans la vie, n'est-ce pas? Donc je pourrais penser à vous cet été, pendant mon séjour là-bas. Nous allons aller plus loin dans notre réflexion, dans notre cinquième étude, et je vous propose deux lectures. La première dans le psaume 131, un court psaume, psaume 131, psaume de David, qui peut aussi être appliqué à l'activité professionnelle, cantique des degrés de David, Éternel. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautes. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Dans la lettre de Paul à l'église d'Éphèse, aux Éphésiens donc, au chapitre 5 tout d'abord, cet impératif incontournable du verset 18, Éphésiens 5, 18. Où Dieu nous dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est du dérèglement. Vous perdez votre maîtrise, cela mène au désordre. Mais soyez au contraire continuellement remplis de l'Esprit. Et dans ce même contexte au chapitre 6 et au verset 5, sans perdre de vue ce que nous venons de lire, chapitre 6, verset 5, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, sous leur surveillance à l'œil, littéralement, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, Maître, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme ou de partialité. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Sans entrer dans les détails de nos quatre précédentes études, j'aimerais rappeler, aussi pour tant soit peu aider les amis qui nous rejoignent pour ce culte, que jusqu'à présent, nous avons réfléchi dans un premier temps à la contestation du travail en essayant d'en comprendre un certain nombre de causes. Dans un deuxième temps, nous avons commencé d'étudier le travail sur un plan très général à la lumière des enseignements de Dieu, de sa parole, de la Bible. Et dans ce cadre, nous avons constaté que Dieu a appelé l'homme au travail. Et que Dieu précède l'homme, qu'il l'a précédé dans le travail. Et que Dieu travaille continuellement. Et qu'il travaille bien, merveilleusement bien. Nous avons ensuite évoqué le douloureux bémol, et c'est peu dire, de la chute, où le travail s'est associé à la pénibilité, à la peine. Le travail est devenu labeur, labour. Le tripalium, cet instrument qui au départ servait à immobiliser le sabot du cheval pour le ferrer et qui est devenu ensuite instrument de torture. Ensuite, nous avons considéré les différentes attitudes par rapport au travail depuis la chute. Et nous avons dit non à la paresse, au mépris à l'endroit du travail, ce qui s'inscrit dans une perspective de rébellion contre Dieu qui appelle l'homme au travail. Tout simplement parce que le travail a des vertus. Dieu donne des vertus au travail. D'un autre côté, nous avons longuement examiné les problèmes liés au travail vu comme une idole, comme une drogue, comme un moyen de fuite devant certaines exigences, certaines responsabilités, et nous avons conclu que le travail idole était un mauvais maître. Et à partir de ces considérations d'ordre général, mais absolument nécessaires, pour poser des fondements sur un thème aussi important, nous sommes entrés alors dans le cœur de notre réflexion en évoquant ces priorités et cet équilibre nécessaire dans la vie professionnelle. Non pour tenter de répondre à toutes les questions précises, pointues que chacun peut se poser, parce que dans bien des domaines, il en va de notre intimité avec Dieu, de notre réflexion collégiale en tant qu'église locale, mais j'ai voulu donner un certain nombre de pistes, surtout souligner un certain nombre de grands principes qui, je l'ai remarqué, au travers d'un certain nombre d'entretiens, ont pas mal fait bouillonner les pensées, les réflexions des uns et des autres, et cela me réjouit beaucoup, pourvu que cela aboutisse maintenant à des décisions conformes à la volonté de Dieu. Et dans ces priorités, ce souci d'équilibre biblique, nous avons souligné que pour que le travail ait sa juste place dans nos vies, Jésus-Christ doit avoir la première place dans nos vies. Jésus-Christ, Sauveur, Jésus-Christ, Seigneur dans ma vie. L'importance de vivre et d'annoncer le Christ Sauveur et Seigneur par l'exercice consciencieux de mon métier. Cela nous a conduit à des implications d'ordre tout à fait pratique, qui nous ont pris du temps. Nous avons voulu mettre l'emphase sur cette dimension très galvaudée aujourd'hui, à savoir l'importance de glorifier Christ par la qualité de mon travail. Travailler ensuite dans un bon esprit, par amour pour le Seigneur et dans un esprit de service, comme Jésus-Christ a travaillé au milieu des hommes en tant que serviteur. Et hier soir, nous avons terminé en considérant quelques aspects des rapports entre ouvriers et patrons, entre responsables ou supérieurs hiérarchiques éventuellement et subalternes. Et nous avons essayé d'assaisonner tout cela d'une quantité d'illustrations tirées de l'histoire de l'Église au fil du temps pour nous identifier à ceux et celles qui nous ont précédés et qui ont été confrontés avec tous les problèmes liés à l'activité professionnelle. Nous n'avons pas dit que les choses étaient faciles, nous sommes engagés dans un combat, dans une guerre spirituelle. Nous avons un ennemi, le péché aussi complique terriblement les situations aujourd'hui. On n'a pas le droit de vivre de gnaka et d'ifocon, mais il importe que nous ayons des principes solidement bibliques, bien fondés, pour bâtir une vie qui plaise au Seigneur. Alors nous allons maintenant un peu plus loin dans notre réflexion pour essayer d'atteindre le but qui nous était fixé. Dans les rapports patron-ouvrier, nous avons considéré quant à la responsabilité de l'ouvrier, celle d'avoir une attitude juste envers le patron. Et nous avons évoqué l'importance de l'obéissance et de la soumission, faisant aussi d'ailleurs la distinction entre le comportement, l'attitude morale, de la soumission, même s'il peut arriver par souci d'obéissance à l'autorité suprême qu'est notre Dieu, de devoir nous placer dans des situations délicates de désobéissance à l'autorité patronale lorsqu'elle veut nous pousser à enfreindre la loi de Dieu. Obéissance, soumission, avec crainte et tremblement, ou plus précisément, avec respect et sens des responsabilités, même à l'endroit de ceux qui ont un mauvais caractère. Ceux qui ont une scoliose du caractère, dit le texte original, 1 Pierre 2,18, qui ne comprend pas une telle expression. Nous avons vu un certain nombre d'exemples, nous avons évoqué la nécessité de la courtoisie, même lorsqu'il y a désaccord. Nous avons mis en relief le fait que généralement l'honnêteté paye, rarement à court terme, souvent à long terme, toujours à long terme si c'est dans une perspective d'éternité. Si ce n'est pas ici-bas, nous le dirons tout à l'heure, de toute manière, là-haut, oui, le résultat final en vaut vraiment la peine. Le Seigneur sait honorer notre fidélité. Travailler avec un cœur droit, dans la simplicité de cœur, dit l'Épître aux Éphésiens et Colossiens 3, sans arrière-pensée, en l'absence du patron comme en sa présence, sans tricherie, sans superficialité, sans orgueil, sans chercher à se faire valoir. Et nous avons posé une série de questions. Sans y répondre, c'est à chacun ensuite de se placer devant le Seigneur pour répondre à des questions telles que celle-ci. Ai-je le droit de diminuer la qualité de mon travail par esprit de contestation? Ai-je le droit de gaspiller le temps de mon employeur ou peut-être volontairement de traîner dans le travail? Ai-je le droit de critiquer mon employeur derrière son dos, près de mes collègues? Ai-je le droit d'utiliser le matériel de l'entreprise pour mes besoins privés sans autorisation de mon patron et sans dédommagement, téléphone, photocopie, fourniture de bureau et j'en passe, même si ces pratiques sont devenues un sport national hautement coté et qui chaque jour amène un certain nombre d'entreprises en France à la faillite, il faut le dire. Ai-je le droit d'établir des rapports d'activité qui ne correspondent pas au travail réellement effectué? Non, si je travaille, comme le dit le texte, dans la crainte du Seigneur, sous le regard du Seigneur de ma vie, celui qui voit tout. L'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. Et nous avons enfin souligné que si le patron est disciple de Christ et que je suis embauché dans son entreprise, dans sa société, en tant qu'enfant de Dieu, je dois avoir la même attitude vis-à-vis du patron, disciple de Christ, que vis-à-vis du patron incroyant. Je n'ai pas le droit de mépriser, je n'ai pas le droit de regarder de haut, je n'ai pas le droit d'essayer d'obtenir des passe-droits. Je dois, sur le lieu de mon travail, garder une distance nécessaire à un bon exercice du métier dans mes relations avec le patron. Il y aurait bien d'autres choses à développer. Ceci, et là je résume, afin que le nom de Dieu et que la doctrine ne soient pas blasphémées, 1 Timothée 6:1, Tite 2:9-10. La doctrine de Dieu, une juste vision de la personne de Dieu, de son caractère, de ses œuvres et de son œuvre de salut en nous, deviennent palpables, visibles, observables dans notre vie de disciples de Jésus-Christ, dans la mesure où nous avons à cœur d'honorer notre Dieu dans l'exercice de notre travail, notre vie professionnelle. Nous sommes observés et notre vie est en elle-même un cours de doctrine de Dieu, vraie ou fausse. J'aimerais simplement souligner, parce que les Écritures le font, que il est aussi question des responsabilités du patron. Et le texte de Colossiens chapitre 4, verset 1er, ou d'Éphésiens 6, 9, est très net. Vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Agissez de même. Ce qui laisse entendre, très simplement, que tout patron, à quelque degré que ce soit, doit agir selon les mêmes principes que l'ouvrier croyant. Pourquoi? Tout simplement parce que tous deux sont sous les ordres du même patron. Dieu lui-même, c'est ce qui est dit dans Éphésiens 6 et dans la seconde partie de ce verset, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux. leur maître et le vôtre. Et qu'est-ce que cela signifie d'une manière plus spécifique pour le responsable, pour le patron ? Cela signifie notamment pas d'abus d'autorité. Le texte le dit, le laisse entendre, abstenez-vous de menaces. Pas d'abus d'autorité. Pas de menace dans le sens, pas de menace de représailles. Il peut y avoir des menaces de sanctions qui soient totalement justifiées. Mais ce ne sont pas des menaces de représailles. Ce que je veux souligner par là, c'est qu'il est facile, quand on occupe une position d'autorité, de faire un mauvais usage de son pouvoir, de faire pression pour amener à commettre des actes illicites, d'utiliser le chantage de l'argent, le droit de cuissage, qui hélas est monnaie courante, non seulement dans le pays, mais qui est un triste sport odieux, international, et qui peut, hélas, je le dis, mais même dans l'Église de Jésus-Christ, il se passe des choses. Et il faut faire attention, en tant que patron, dans les rapports avec ceux qui sont sous notre autorité, à ne pas donc abuser d'une manière ou d'une autre du pouvoir, de l'autorité qui nous est déléguée par Dieu lui-même. C'est Jésus qui disait dans Matthieu 20, versets 25-26, les grands abusent de leur pouvoir. Donc nous serons tentés d'aller au-delà des limites que Dieu fixe dans l'autorité qu'il nous délègue. Et nous devons nous placer devant lui pour être certains d'utiliser la juste mesure dans ce domaine. Nous avons aussi, à l'endroit du patron, l'importance de donner un salaire juste, correct, équitable à l'ouvrier. Ceci est aussi souligné dans Colossiens 4:1, « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, toujours pour la même raison, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Et les textes bibliques qui parlent de l'importance d'être juste dans le domaine des salaires sont nombreux dans les Écritures. Nous pouvons prendre dans Lévitique 19, au verset 13, par exemple, Lévitique 19, verset 13, « Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence, tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. » Deutéronome 24, 14 et 15, Deutéronome 24, 14 et 15, « Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères, hein, qu'il soit l'un de tes frères, ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre, et lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. » Vous remarquez ici, mais nous allons y revenir au passage, quelle est l'attitude de revendication. Une revendication qui va d'abord vers Dieu. Il crierait vers l'Éternel. Et Dieu entend. La Bible nous dit que Dieu entend, Dieu voit. Et nous pourrions prendre quantité d'autres textes dans le Nouveau Testament, Jacques au chapitre 5 et au verset 4. Jacques 5, on peut d'ailleurs prendre plus haut, déjà au verset 1er, « À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les teignes, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie ! Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre une vie de confort et de luxe. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. L'ouvrier mérite son salaire. Qu'est-ce que cela veut dire pratiquement ? Cela veut dire par exemple que bénéfice raisonnable et salaire raisonnable sont liés. Vouloir retirer un trop gros profit, n'est-ce pas agir sur le dos à la fois de l'acheteur et de l'ouvrier de l'entreprise ? D'un autre côté, la Bible nous dit aussi que l'employé doit savoir se contenter d'un salaire raisonnable. Jésus disait par exemple aux soldats qui étaient tentés là aussi de revendiquer « Contentez-vous de votre solde ». En tout cas, il est une règle d'or applicable dans l'exercice d'une profession au niveau du salaire comme dans d'autres domaines. C'est ce texte, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Luc 6, 31. Et c'est ici que se placent plusieurs questions. Une des questions est celle-ci, que penser d'un métier du type, entre guillemets, agent commercial ? Est-il juste de vendre un même produit à différents prix selon que j'arrive à résister, entre guillemets, au client, ou que lui arrive à marchander avec moi? Celui qui a payé le prix fort n'a-t-il pas été volé? Cela pose peut-être, par exemple, la question, mais quelles sont les règles qui ont été fixées au départ? Sont-elles honnêtes? Est-ce que le véritable problème n'est pas celui-ci? Le prix est-il en rapport direct avec la qualité de la marchandise proposée? Qu'en est-il du rapport qualité-prix? Et puis, la marge bénéficiaire est-elle raisonnable? Le terme marchander est intéressant parce que le marchandage comporte de sérieux risques de dérapage malsain et injuste. Si des règles saines ne sont pas fixées au départ pour imposer des limites. Et puis peut-être comme question de fond, le point de repère est-il la qualité du produit ? Ou l'épaisseur du portefeuille du client, ou encore l'importance de la commission, ou encore le maintien de l'agent dans la société. Dit d'une autre manière, quelle est la motivation de l'employeur, quelle est la motivation du vendeur? Sa motivation essentielle est-elle vendre à tout prix, donc à n'importe quel prix? Et vous remarquez que volontairement, je procède à la manière pédagogique juive. C'est-à-dire que je fais tout mon possible pour répondre à des questions par des questions. Tout simplement parce qu'une fois de plus, nous avons besoin personnellement de nous interroger devant Dieu, à partir de ces points de repère. Il est trop facile d'infantiliser l'église locale. en disant il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. D'ailleurs, de tomber généralement à côté. Mon souci est de susciter une réflexion à partir de ces questions de fond qui reposent sur des principes de l'Écriture pour que nous examinions nos cœurs et donc que nous puissions ensuite modifier notre manière d'agir. Et je sais pertinemment, surtout dans le travail d'agent commercial, combien cela peut nous valoir de difficultés dans nos relations avec nos supérieurs, avec les patrons de l'entreprise. Une autre question s'est greffée sur celle-ci. Quelle place dans la vie du chrétien pour les revendications, et entre parenthèses, syndicales notamment? C'est une question importante, surtout après ce que nous avons dit. Et j'aimerais ici simplement fixer quelques jalons de réflexion. La première, pour souligner ceci, nous devons nous poser la question, tout d'abord, les revendications de mon entreprise, de ma société, de mon lieu de travail, voire les miennes, sont-elles légitimes? Sont-elles justifiées? Alors c'est vrai qu'il y a pléthore de revendications aujourd'hui, qu'il y a certainement un tri très sérieux à faire entre celles qui sont légitimes et celles qui ne le sont pas, celles qui sont justifiées et celles qui ne le sont pas. D'autant plus que la situation est beaucoup plus compliquée aujourd'hui que dans le passé, même dans un passé très récent. Nous sommes en train de voir peu à peu chaque pays, par exemple d'Europe, perdre son indépendance nationale. C'est-à-dire que dans une quantité de domaines de plus en plus impressionnants, les véritables décisions échappent à notre employeur. Tout simplement parce que ces décisions sont prises très loin, dans des bureaux, à Bruxelles par exemple, et que l'employeur lui aussi est tenu, hélas, dans certains cas, de se soumettre à des législations qui sont parfois complètement aberrantes. Et nous voyons vers quel genre de catastrophe nous allons de plus en plus, avec cette perspective de décision totalement centralisée, très loin du terrain d'activité, qui ne respecte plus des identités propres à chaque secteur, à chaque région, à chaque pays. Et il est vrai que la situation devient extrêmement difficile dans la mesure où, effectivement, des lois nous sont dictées de très loin et que nous sommes tenus de nous y soumettre. C'est tout un problème qui s'inscrit d'ailleurs dans l'enseignement des Écritures sur la fin des temps. Nous préparons de manière manifeste le lit de l'Antichrist, de ce pouvoir mondial unique qui légiférera sur tout, dont les lois seront des lois iniques. Nous les voyons se développer très rapidement. Que voulez-vous faire si, par exemple, dans une entreprise industrielle, on veut protéger la mère de famille et, par exemple, je prends un exemple des plus récents, ne pas l'autoriser à travailler de nuit. Quand maintenant, les directives européennes sont en train d'obliger tous les pays d'Europe à autoriser le travail de nuit dans l'industrie pour les femmes. Alors la France et l'Italie, qui jusqu'à présent avaient une législation de protection, en tout cas dans ce domaine de la femme, sont obligés de s'aligner et à partir de maintenant, n'importe quelle femme voulant travailler dans le secteur industriel la nuit et qui se verrait refuser cette possibilité par des patrons peut attaquer ses patrons en justice auprès de la Cour européenne. Nous en sommes là. Alors il faut aussi le réaliser et ne pas simplement contester et toujours contester est-ce que nos revendications sont toutes légitimes, justifiées, il y a les revendications égoïstes, etc. Deuxièmement, rechercher les méthodes que Dieu approuve. Quelles sont les méthodes que Dieu approuve? Et si je vais un peu plus loin, en précision, troisièmement, privilégier donc le dialogue, la concertation, une saine communication et non l'affrontement et l'agression. Or, est-ce que nous ne devons pas constater que pour ne parler que de notre belle terre de France, nous ne savons pas communiquer, nous ne savons pas écouter, nous ne savons pas négocier, nous ne savons pas nous concerter. Et c'est dramatique. Et souvent, il faut des situations absolument catastrophiques, faites d'opposition violente, pour qu'enfin des partenaires, faut-il les appeler ainsi, consentent à s'asseoir autour d'une table pour essayer de se comprendre et de chercher des accords. Et si je dis cela, c'est simplement parce que nous pouvons transposer ce problème dans l'église locale. Que de confrontations malsaines dans nos églises. Que d'agressivité. Que de refus d'écouter l'autre. D'essayer de s'identifier à l'autre. Combien de situations de crise terribles qui sont simplement dues au fait que nous ne savons pas dialoguer. Nous allons si souvent vers l'autre en accusateur, sans avoir réfléchi. Et c'est grave. Que d'église tombe en miettes de cette manière. C'est, je crois, Jules Renard qui disait que la conversation est un jeu de sécateurs où chacun taille la voix de son voisin aussitôt qu'elle pousse. Et puis, quatrièmement, puisque le mot syndicat figure dans la question, je dirais attention au syndicalisme partisan, politisé, et qui est si loin du syndicalisme, dans l'histoire du syndicalisme à l'origine. Je vous le disais ces derniers jours, le syndicalisme est né dans les milieux évangéliques. En Grande-Bretagne, ce qu'on appelle trade unions, c'était le syndicalisme évangélique. Lié précisément au merveilleux message évangélique de John Wesley, toute la question de ce que je voulais expliquer, du méthodisme. Nous avons vu hier soir, nous avons lu des textes à ce sujet. Et il y avait alors là un souci véritable d'améliorer les conditions de travail de l'homme pour que l'homme ne soit pas comparé à une bête, mais pour que l'homme puisse glorifier Dieu dans son travail. Alors, est-ce que tel ou tel syndicat s'inscrit dans cette perspective, ou bien Est-ce que d'autres intérêts sont en jeu? Partisans, politisation, etc. Égoïsme. Avant de revenir à cela simplement, je le rappelle, nous l'avons vu tout à l'heure. Quelle est l'arme de la revendication la plus efficace pour le disciple de Christ, n'est-ce pas l'arme de la prière? Mais ici, j'étais heureux de cette question parce que nous avons vécu dans notre vie familiale l'an dernier un événement qui nous a profondément bouleversés. Tina, mon épouse, que beaucoup d'entre vous vivaient avant la dernière guerre en Belgique, à cause de toute la situation en Pologne, et le papa de mon épouse était à la fois responsable d'église, pasteur, et mineur, c'est-à-dire qu'il descendait dans le trou et puis il s'occupait de l'église en même temps, jusqu'à l'âge de 40 ans où il a été appelé auprès du Seigneur à cause de la maladie des mineurs. Et le premier des enfants dans cette famille, élevé donc dans un cadre évangélique, dans une église polonaise, a décidé à l'âge de 18 ans de déconnecter par rapport à Dieu, de vivre sa vie sans donner à Dieu et au Seigneur Jésus la place qui lui revenait. Et il s'est lancé dans le syndicalisme. Et il s'est lancé dans un syndicalisme, je dirais, ayant des côtés très honorables. Il y avait chez lui, c'est un beau-frère que je connais bien, avec lequel j'ai eu de longs entretiens. Nous nous apprécions mutuellement. Et j'ai été frappé par son souci de justice, son désintéressement, la manière dont il s'est dépensé pour le bien-être et bien vu, je crois, de l'ouvrier. Et peu à peu, il a grimpé dans l'échelle du syndicalisme belge jusqu'au niveau provincial. Et toujours sans Dieu. Jusqu'à ce qu'il soit lui-même licencié, mis au chômage, et que cette idole syndicat qui occupait tant de place dans sa vie s'écroule. Parce que bien sûr, au fil des années, il en a vu toutes les ficelles, toutes les coutures, il a connu déception sur déception, il s'est rendu compte d'une quantité de problèmes énormes dans le syndicalisme, et c'est alors que tout s'écroulait, que Dieu a mis sur sa route un ami qui l'a emmené chez les témoins de Jéhovah. Et là, chez les témoins de Jéhovah, au cours d'une réunion, il a été touché. Dieu l'a rencontré. Il était dans sa 56e année de vie. Il est rentré à la maison, il est allé au-dessus de l'armoire dans une de ses pièces où il avait jeté une Bible que Tina lui avait remise quelques années auparavant, et il s'est mis à examiner dans la Bible pour voir si ce qu'on lui avait expliqué était exact. C'est intéressant. Et il a été troublé. Donc il est retourné une deuxième fois. Il a demandé un entretien avec le responsable. Il a eu cet entretien. À la fin de cet entretien, le responsable lui a dit « Je ne veux plus te voir chez nous. » Quelle bénédiction. Et il s'est donné à Jésus-Christ. Il a été baptisé depuis. Son témoignage était fort émouvant. Une conversion radicale. Il est engagé dans la vie d'église, de l'église dans laquelle son père était responsable, jusque dans les années
disons, fin des années 40, il est décédé en 1950. Et ce qui est intéressant, c'est que son papa s'est converti à Jésus-Christ en 1936 par le biais des témoins de Jéhovah. C'est un petit témoignage, mais je le trouve intéressant, notamment par rapport à toutes ces questions de syndicalisme. Voilà, un homme qui finalement est allé vers le bon syndicat, Père, Fils, Saint-Esprit. Et il est maintenant très heureux dans le Seigneur, et cela nous a encore beaucoup rapprochés. C'est extraordinaire de voir ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Et ceci me conduit à prolonger en quelque sorte tout ce que nous venons de dire concernant ces rapports ouvrier-patron, patron-ouvrier, syndicalisme, question de salaire, revendication. C'est intéressant parce qu'il semble que Dieu ait prévu ce genre de questions dans les Écritures et que tout simplement, Dieu ait conduit l'apôtre Paul à donner des avertissements. Colossiens 3, 24, 25, nous avons souvent fait allusion à Colossiens 3, 24, 25. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur, alors cela nous l'avons étudié, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, il n'y a point de favoritisme. Et le message est le même dans Éphésiens 6, verset 8, « Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien, et vous-même, maître, agissez de même à leur égard, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'exception de personne. » Nous avons lu Jacques 5, 4, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Eh bien, tout simplement qu'il y aura un règlement de compte final. Il y aura un règlement de compte final. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il jugera sur la base d'une connaissance réelle des cœurs et des motifs profonds. Nous avons parlé de motivation. Dit d'une autre manière, beaucoup plus simple, un jour, chacun devra paraître dans le bureau du grand patron. Et le grand patron va rétablir la justice. Sa justice va triompher. Il y aura des sanctions et il y aura des récompenses. Et cela veut dire que nous sommes invités, qui que nous soyons, nous sommes invités à vivre notre travail dans la perspective du retour de Jésus-Christ. Jésus peut revenir enlever son église aujourd'hui, tout à l'heure. La mort peut me ravir au mien et me faire paraître dans la présence du Seigneur si rapidement. D'où l'importance de vivre dans cette perspective d'imminence de rencontre avec notre Dieu. La signification concrète, quelle est-elle? Eh bien, ne jouons pas en tant que disciples de Christ les oraux et les justiciers permanents. Il peut y avoir dans notre vie une tension continuelle par idéalisme mal placé. Champion de la justice de Dieu parmi les hommes, alors je me place en zoro. Et parce que je vois tant d'injustices autour de moi, parce que ma conscience elle-même est tellement travaillée par tout ce que je vois, parce que je suis indigné, et il est bon en tant que disciple de Jésus-Christ d'être indigné. Mais attention, de l'indignation au glissement d'une colère charnelle et agressive, il y a parfois si peu. Eh bien, Dieu nous dit non. Soyons indignés, soyons lucides, ne fermons pas les yeux, mais ne jugeons pas avant le temps. Et cela peut vraiment désamorcer chez le disciple de Christ un esprit de contestation et de revendication permanente, qui d'ailleurs existe aussi, redisons-le, dans l'Église. Sachez que votre péché vous retrouvera. Peut-être y a-t-il des moments où nous sommes appelés à dire cela, simplement. Peut-être est-ce la meilleure revendication par moment. Sachez qu'il existe une loi de la semence et de la moisson. Elle est visible partout. Et elle existe dans le domaine suprême. Sachez que votre péché vous retrouvera, nombre 32, 23. Sachons que nous serons mesurés avec notre propre instrument de mesure, disait Jésus, Matthieu 7, 2. Un jour, tout sera mis en lumière. Parce que tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, Hébreux 4, 13. Je pense à ce boulanger qui habitait dans une petite ville et qui avait pris l'habitude d'acheter son beurre chez un fermier du voisinage. Un jour, il se rendit compte que la taille des mottes de beurre n'était plus la même. Leur poids avait diminué graduellement depuis le début, et cela le mit dans une telle colère qu'il porta plainte contre le fermier. Finalement, le fermier fut traduit en justice et le juge de lui dire « Mais je suppose que vous avez des poids. » Et le fermier de répondre simplement « Non, monsieur le juge, mais pas de poids. »« Ah bon ? Mais comment faites-vous pour peser le beurre que vous vendez ?»« Ah, monsieur le juge, c'est très simple. » Quand le boulanger s'est mis à acheter son beurre chez moi, je me suis dit que je faisais aussi bien d'acheter mon pain chez lui. Et c'est de sa propre miche d'une livre que je me sers pour peser le beurre que je vends. Si le poids du beurre n'est pas juste, c'est lui qui est à blâmer. Votre péché vous atteindra. Il y aura un grand règlement de compte. Et vous savez, pour moi, c'est une grande consolation. Savoir que Dieu est le véritable redresseur des torts dans l'histoire m'aide à supporter l'insupportable. Savoir que la justice de Dieu ne change pas, que Dieu n'est pas une girouette, ni dans son amour, ni dans sa sainteté, ni dans sa justice. Sa justice triomphera. Et je l'ai déjà dit, au jour du jugement dernier, personne n'accusera Dieu dans ce domaine. Alors, travaillons comme si le Seigneur revenait aujourd'hui, parce qu'il peut revenir aujourd'hui. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous connaissez ce texte d'un Jean 3. Quand nous le verrons, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Un touriste visitait un magnifique parc en Italie et il demande au gardien s'il avait souvent la visite du propriétaire. Non, il n'est pas venu depuis 12 ans. Enfin, je suppose qu'il vous écrit. Jamais. Ben, de qui donc recevez-vous vos ordres ? Du gérant, il habite à Milan. Ce monsieur, votre gérant, vient-il souvent ? Jamais. Ah bon ? Mais qui surveille les affaires ? Eh bien, je suis à peu près le seul à le faire. Je vois rarement quelqu'un. Et pourtant, vous gardez le parc en parfait état. On penserait que vous attendez la visite du propriétaire pour demain. Et le gardien de répondre, « Pour aujourd'hui, monsieur, pour aujourd'hui, pas demain. Il peut arriver tout à l'heure. Conclusion. Eh bien, pourquoi à l'issue d'un tel week-end ne pas revoir notre stratégie de travail, établir une nouvelle stratégie dans notre travail, avoir un nouveau regard sur notre travail? Tout d'abord en disant, je ne suis pas là par hasard. Dieu m'a placé là dans un but précis. Comme son témoin, c'était une dominante de notre réflexion. Et sur cette base, je lance donc l'opération transformation de mon travail quotidien. Question. Que dois-je changer dans mon attitude à la lumière de l'enseignement biblique? Y aurait-il des confessions qui s'imposent? Des réparations qui s'imposent? Des réajustements qui s'imposent? Autre question, quels sont désormais mes principes directifs de base concernant l'honnêteté dans ma vie et dans mon travail? Et là, je me réjouis de ce qu'un bon nombre de jeunes soient parmi nous, parce que cela me permet de dire et d'affirmer avec force conviction que plus tôt on place dans sa vie, on intègre à sa vie des principes bibliques concernant l'honnêteté, la pureté, et nous pourrions ajouter quantité d'autres mots, plus tôt on le fait, plus on est heureux dans sa vie. Nous devons avoir au départ des principes. On ne fabrique pas des principes au petit bonheur la chance en cours de route comme on le fait si souvent aujourd'hui. On verra bien quand on sera devant le problème. Si nous n'avons pas de principes bibliques, si nous n'avons pas donc une approche des Écritures continuelle, visiter le territoire des Écritures d'un bout à l'autre continuellement pour voir peu à peu s'affirmer, sortir du texte ces grands principes spirituels qui sont dans la pensée même de Dieu et dire ça, c'est ce que je veux pour ma vie, c'est à quoi je m'engage devant toi, non pas avec mes forces, j'en suis parfaitement incapable, mais Seigneur, je compte sur toi, mais avec toi je fais un pacte, je fais une alliance de lumière. Concernant la pureté dans le domaine de la sexualité, dans le domaine de mes pensées, parce que la pureté commence là, dans mes pensées. Concernant l'honnêteté, l'intégrité, le refus de m'installer dans des attitudes lâches, élastiques, concernant la propriété des biens, et tant d'autres sujets. Alors, quels sont nos principes directifs de base concernant, par exemple, l'honnêteté dans notre vie, dans notre travail? Quelqu'un me disait, dans un entretien ces derniers jours, qu'il voulait vraiment prendre la décision qu'à partir de maintenant, dans tel domaine, ce serait fini. Ensuite, dans cette recherche de stratégie, je vais chercher des buts spirituels dans mon travail de chaque jour. Ceci parce que nous avons mis en lumière de manière très forte ce danger de vivre dans cette distinction profane d'un côté, spirituelle de l'autre. Il faut abolir cette distinction. Il faut qu'il n'y ait plus de fossé entre une partie de notre vie qui serait spirituelle parce que directement au contact de la parole de Dieu, de l'Église, de réunion, vie de prière, etc. Puis une autre dont on ne sait pas très bien quoi faire, qui nous semble un gaspillage de la vie parce que nous devons travailler pour gagner notre croûte. Abolir ces cloisonnements malsains. Alors, des suggestions simplement pour ces buts spirituels. Premièrement, ai-je un carnet répertoire de prières avec les noms et les besoins de mes collègues de travail? Voilà une chose toute pratique. Est-ce que je peux donc, jour après jour, prier pour mes collègues, pour tous ceux qui gravitent autour de moi, qui travaillent avec moi, en sachant que je prierai le premier jour pour les A, le second jour pour les B, et ainsi de suite, et peu à peu, je vais couvrir, en quelque sorte, la totalité de mon entourage quand on prie pour ceux qui travaillent à nos côtés, ceux avec lesquels nous sommes en contact, ça change notre regard sur eux. Et cela permet aussi à Dieu de nous éclairer, de nous guider dans nos rapports avec eux. Deuxièmement, ceci avec prudence, cela va de soi, je donne des directions. Ensuite, il faut apprendre à y mettre les nuances et savoir parfois même demander conseil à des aînés. Je plante des drapeaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous disais hier que notre Emmanuel est en stage dans une entreprise dans le cadre de sa formation de lycée. Et il me disait, ce n'est pas la première fois d'ailleurs, qu'il est horrifié de voir le genre d'affichage, de drapeau, que ceux avec lesquels ils travaillent brandissent dans leur caisse à matériel, dans leur box. Et vous voyez tout ce que je veux dire dans le domaine de l'affichage, de la sexualité, etc. Alors si le diable sait si bien s'afficher, pourquoi le disciple de Jésus-Christ ne s'afficherait-il pas? Alors je sais qu'il y a des lieux où c'est interdit. Quand c'est interdit, c'est interdit. Et nous risquons d'être de mauvais témoins si nous affichons là où il ne faut pas. Mais est-ce qu'il n'y a peut-être pas, je dis cela avec nuance, en fonction du cadre de notre travail, de notre entreprise, de ce que nous faisons exactement, mais il faut réfléchir, comment est-ce que je peux planter des drapeaux pour susciter des questions? Non pas avec une originalité malsaine, méchamment provocatrice, il faudra réfléchir. Mais je lance la réflexion pour que nous nous posions la question, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire qui vraiment montre que tu es le Seigneur de mon travail, qui n'outrepasse pas certaines règles, qui ne soit pas d'une méchante agressivité, mais est-ce que dans ma situation j'ai quelque chose à faire? Cela veut dire, et là encore avec le sens des nuances, que j'aurai un minimum de matériel disponible, peut-être là où je travaille, traité, évangile, etc., pour pouvoir discrètement saisir les occasions lorsque c'est possible. Et là encore, tout cela va varier d'un lieu à l'autre, mais il faut que j'y pense, il faut que j'y réfléchisse. Et il faut que je sois armé et non désarmé pour les portes que le Seigneur peut ouvrir au moment même où je m'y attends parfois le moins. Quatrièmement, est-ce que je prévois des moments de partage? À la cantine, à la cafétéria, à la pause café, etc. Pour éviter notamment d'utiliser le temps réservé au travail pour témoigner continuellement. Rappelez-vous de la fabrique de chocolat et de Georges Verber. Je pense à ce pasteur qui visitait un grand atelier de tissage où travaillait un des membres de son église, et mentionnant cet employé au contremaître, le pasteur de dire « Je suppose que Jean est un de vos meilleurs ouvriers. » Et le contremaître de répondre « Non, Je suis désolé de devoir dire qu'il ne l'est pas. Le problème avec lui, c'est qu'il passe son temps à parler de sa religion alors qu'il devrait s'occuper de son métier à tisser. Oh, ce n'est pas un mauvais gars. Et il a l'étoffe, ça allait bien, pour faire un bon tisserand. Mais il n'a pas encore appris que lorsqu'il est au travail, sa religion devrait lui sortir des doigts et non de la bouche. Peut-être aussi essayer d'implanter, quand c'est possible, un groupe biblique d'entreprise, puisqu'il existe une association membre de la FEF qui s'appelle Groupe biblique d'entreprise et qui donne des conseils. On peut adhérer à cette association pour pouvoir être aidé dans son propre témoignage. Sixièmement, est-ce que je partage avec l'église locale les objectifs et les problèmes que je rencontre au travail ? Est-ce que je sais demander conseil pour les situations épineuses, situations conflictuelles, éthique du travail, menaces de grève? Là aussi, l'église locale est là pour m'entourer. Des aînés, des frères et sœurs peuvent faire équipe avec moi, en particulier dans les situations plus difficiles. Donc, importance de l'église locale. Le christianisme n'a rien d'une religion solitaire. Et un christianisme du dimanche n'est pas le christianisme du Seigneur. Le christianisme du Seigneur, nous l'avons dit cette semaine, c'est 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Septièmement, est-ce que je profite des situations favorables, des événements, fêtes, anniversaire, hospitalisation ou autre drame, pour témoigner avec amour? Que de collègues de travail qu'on ne semblait jamais pouvoir atteindre dans le cadre du travail ont été touchés à un moment de leur vie où ils étaient, je dirais, sainement plus vulnérables, plus ouverts à une écoute de l'Évangile à cause de l'intérêt qu'on leur manifestait dans leur situation difficile ou dans leur situation de joie. Et puis enfin, est-ce que j'ai l'objectif d'une généreuse libéralité? Puisqu'à plusieurs reprises dans les Écritures, il est dit que nous travaillons, bien sûr, pour pouvoir subvenir à nos besoins, mais pour pouvoir aussi subvenir aux besoins de nos frères qui sont dans le besoin. Éphésiens chapitre 4 et d'autres textes encore. Est-ce que j'ai le souci de la solidarité dans le cadre du corps de Christ? Je suis persuadé que nous allons dans nos églises devoir de plus en plus exercer le service de la solidarité au fur et à mesure que le fossé va s'agrandir entre les riches et les pauvres, et où les pauvres seront laissés pour compte sur le bord du chemin. Nous en avons un symptôme tellement flagrant et criant. La bourse bat tous les records. Jamais elle n'a autant progressé sur si peu de temps. Alors qu'au même moment où certains spéculent de manière odieuse, combien de nos contemporains sont dans des situations de plus en plus difficiles? Et là, l'Église, avec sagesse, ce n'est jamais facile de s'occuper des questions de soutien, d'aide financière. On a besoin de discernement, de vie dans la présence de Dieu, pour, parce qu'il y a des pièges aussi. Mais c'est aussi notre vocation. Alors je vous laisse et je m'arrête là. Ce texte que nous avons lu plusieurs fois, de Colossiens 3, 17, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Et rappelez-vous, nous l'avons dit tout à l'heure, que pour pouvoir le faire, il faut que nous accomplissions le verset 16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous, dans le sens même d'avertissement ici, pas d'encouragement, c'est intéressant, mais d'avertissement aussi. Les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Et sur cette base-là, alors, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Il y avait une dernière question, et elle s'inscrit tout à fait dans ce que nous avons partagé. Au travail, dans un groupe, entre parenthèses 8 à 10 personnes, comment répondre quand ils, je pense les collègues, nient l'existence de Dieu et nous défient? Oh, j'aimerais simplement souligner une chose. C'est que l'homme en groupe ne réagit jamais de la même manière que lorsqu'il est tout seul. Et qu'il vaut mieux éviter des confrontations où l'on est seul en face d'un groupe. Parce que vous ne reconnaîtrez même pas le caractère de votre meilleur ami, tellement il peut virer par l'influence de ceux qui l'entourent et le souci de se protéger à l'intérieur du groupe. Il n'y a pas que les adolescents qui ont ce problème, c'est un problème humain. Donc, mieux vaut faire du un à un que de se placer dans des situations douloureuses parfois à vivre. Bon, si le défi nous est lancé par un groupe, je ne crois pas qu'il soit sage de discuter. Dieu ne s'explique pas à coup d'arguments. Dieu se vit. Et après tout, on peut le dire. Pour moi, Dieu a changé ma vie. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais ma vie a été changée. Et ça, c'est la meilleure preuve qu'il vaut la peine de croire en lui, de mettre sa confiance en lui. Devant une vie changée, j'ai toujours considéré depuis longtemps que c'était l'argument fort, une vie changée. Et puis après, c'est la relation personnelle qui fera le reste. Seigneur, nous te bénissons encore parce que tu n'es pas un Dieu de la théorie. Nous ne sommes pas dans la philosophie grecque ou orientale. Tu n'es pas un Dieu lointain. Merci pour l'incarnation en ton Fils Jésus-Christ, et puis l'incarnation dans le quotidien de ma vie, de mes problèmes. Seigneur, tu n'ignores rien de mes combats, de mes luttes, de mes questions, de mes angoisses parfois, de mes revendications. Seigneur, tu sais tout, rien n'est caché à tes yeux, et je peux tout te dire. Merci de savoir que lorsque je m'attends à toi, tu es aussi celui qui, au fil des besoins, c'est m'accorder une attention certaine, me donner des indications, des directives, des indices, transformer les situations. Nous te bénissons, nous te reconnaissons à la fin de ce culte comme le Dieu vivant et vrai, qui intervient continuellement dans l'histoire humaine et qui un jour interviendra définitivement pour ce grand règlement de compte final. Seigneur, je te prie pour que aucun des bien-aimés qui sont sous ce toit ne soit surpris par ton retour. Et que nous soyons tous, ensemble, là-haut, dans le ciel de ta présence. Ô Seigneur, s'il n'y avait pas parmi nous qui que ce soit qui n'a pas encore fait la paix avec toi, parle à son cœur. Contrains-le comme tu sais le faire en le respectant, tu le fais si bien, d'entrer dans ta famille. Ô Seigneur, visite-nous, sois notre sauveur et vraiment dans notre vie, manifeste-toi comme Seigneur. Nous n'avons pas la force, mais nous comptons sur toi. Merci pour la puissance de ta grâce, tellement suffisante. Merci pour le ministère de ton esprit. Merci pour tes tendres soins et ta sollicitude à notre égard. Nous t'en bénissons. Merci aussi pour ton pardon. Nous venons à toi et nous déposons certains fardeaux si lourds sur notre cœur. Nous nous confessons, nous reconnaissons tous ces dérapages, toutes ces failles dans nos vies par lesquelles l'ennemi s'est engouffré, ces zones de fragilité qu'il a su élargir. Seigneur, nous venons à la croix. Je viens à la croix pour pouvoir vraiment repartir, restaurer, renouveler, purifier, réconcilier. Seigneur, fais-le. Fais-le dans nos vies, tu connais nos besoins, tu les lis en cet instant. Merci de glorifier ton nom en Jésus-Christ dans nos vies. Amen.